Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Opéra de Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. À partir du 28 janvier sera proposé Red Waters de Kerenan Zedel et Bardi Johansson. Et nous allons en parler en compagnie du metteur en scène Arthur Nosiciel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également directeur du Théâtre National de Bretagne et vous y retrouverez donc Kerenan, qui est l'une de vos artistes associées pour cet opéra, opéra que vous reprenez et recréez 11 ans plus tard. Pourquoi cette envie aujourd'hui de reprendre et de réinventer votre manière d'interpréter et de mettre en scène cet opéra ?
C'était une aventure qui avait été très passionnante pour nous tous. Ça avait été une longue histoire puisque ce projet est né alors que je travaillais en Islande, au Théâtre National d'Islande à Reykjavik, sur un projet d'une pièce écrite à cette occasion par Marie Dariussec et qu'on avait choisi de faire traduire en islandais par un très grand poète et romancier qui s'appelle Sion, qui par ailleurs a été le parolier de certaines chansons et des plus belles chansons de Björk et de Radiohead. Et je travaillais également avec Bardi Johansson, qui composait la musique du Musée de la Mer. Dans ce travail en commun, Bardi et Sion me disaient, mais nous, on rêve de faire un opéra et on aimerait bien que tu fasses partie de l'aventure. Voilà, ils m'ont invité avec eux. Et Bardi avait un duo à ce moment-là avec Kerenan qui s'appelait Lady and Bird, qui avait sorti un album électro-folk très mélancolique, très beau, qui est vraiment une synthèse de leurs deux univers à eux, à la fois dans une apparente simplicité, alors qu'en fait c'est extrêmement complexe et presque savant comme musique. C'est vraiment quelque chose d'assez passionnant. C'est des gens qui ont une écriture vraiment très très belle et très très évocatrice en fait. Et c'est donc ce duo Lady and Bird qui s'est lancé dans l'aventure de la création de cet opéra avec le livret de Sion, qui a raconté l'histoire en s'inspirant d'un univers de saga islandaise, mais aussi de beaux romans comme La mort et le printemps de Mercero Doreda, et qui est parti dans cette aventure avec Lady and Bird, qui a commencé à penser son travail non plus en termes d'électro ou de folk, mais vraiment symphonique.
Pour dire un petit mot, Arthur Nosiciel, de l'histoire, parce que vous l'avez évoqué, mais pour les auditeurs qui ne savent pas encore de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est devenu célèbre suite à une découverte sur la télépathie des jumeaux et qui revient dans son village natal avec un regard très corrosif, ou en tout cas un regard très négatif sur ces villageois qui sont enivrés la plupart du temps, puisqu'à 6 reprises dans la journée, ils vont boire à une fontaine de vin rouge, d'où le titre Red Waters. Donc il y a un univers très onirique, très féerique, très monstrueux en même temps.
C'est ça, un peu fantastique, un peu de légende en fait, c'est un mythe. Hein. Son regard est circonspect, il a un regard un peu ethnologue, on va dire, un peu scientifique sur ce village d'où il avait très peu vécu et qui est en fait un village qui ne vit que sur les rituels et sur le sacrifice. Alors c'est que la source qui leur permet de rester en vie et de se déshydrater, une source de vin en fait, donc ils n'ont que ça à boire. Mais il y a quelque chose qui raconte à la fois la petite communauté, comment une communauté peut-elle survivre quand elle vit un peu hors du monde et elle vit à travers le rituel, à travers l'évocation de sa propre légende. Et puis surtout, je pense que c'est même un enjeu qu'on comprend mieux aujourd'hui, qui est comment une communauté va survivre par à chaque fois le sacrifice d'une de ses générations. Et finalement, ça fait écho à plein de choses qu'on a traversées, c'est-à-dire on posait franchement la question dans plein de pays mais est-ce qu'il faut sacrifier sa jeunesse pour sauver quelques personnes âgées? Donc il y a quelque chose de Red Waters, qui est une pièce en fait qui parle d'enjeux qui sont des enjeux très humains sur la question de la survie, de la tradition, des conventions, de comment échapper à son groupe, à sa communauté, comment exister pour soi-même, qu'est-ce qu'une communauté peut et doit sacrifier pour assurer sa survie. Enfin voilà, c'est un peu les questions qui traversent cette histoire, mais qui est racontée pas du tout de manière politique ou idéologique, mais qui est racontée un peu comme un conte fantastique à la Tim Burton. Moi, je trouve que c'est vraiment ça l'univers un peu de Red Waters.
Ce qui vous laisse plein de place en tant que metteur en scène pour inventer plein de choses. On est à la fois hors du monde et dans le monde, on est hors du temps et dans le temps, puisque le temps de la légende, le temps de les 6 reprises par journée où les villageois vont à la fontaine donne un temps, mais on est quand même dans quelque chose qui vous a laissé une très très grande liberté de création.
Oui, parce qu'on ne sait pas très bien où tout ça se passe et quand ça se passe, donc il fallait justement inventer un monde comme on inventerait une planète, ou comme on inventerait une tribu, ou comme on invente une communauté qui a sa propre façon d'être, de bouger, de penser, de chanter. Donc c'est un peu ça. Puis c'est vrai qu'aussi, par rapport au code de l'opéra, Bardi et Karajan s'affranchissent quand même de la rigidité de l'opéra en gardant finalement la structure de l'opéra, mais pas forcément la forme, en essayant d'amener des chanteurs lyriques à être dans des voix beaucoup plus simples et retenues, comme on les entend dans leurs albums, mais avec une vraie place laissée au chœur, par exemple, ou à la danse. Et c'est là qu'intervient aussi mon collaborateur fidèle, qui est Damien Jallet, qui est aussi artiste associé au TNB, qui est un très grand chorégraphe et danseur, et que, il y avait aussi l'envie dans cet opéra de laisser une grande place à la chorégraphie, et où la danse, là, n'est pas là pour illustrer et décorer, mais où les trois personnages des nymphes, qui de l'opéra sont très actives et participent complètement de l'action. Et donc c'est vraiment un spectacle qui mélange la danse, la musique, l'esthétique, l'image. Donc c'est un ensemble comme ça. Et quand vous posiez la question de pourquoi le recréer, c'est peut-être parce qu'en 2011, c'était peut-être quelque chose d'une aventure qui a été, voilà, qui nous plaisait beaucoup, mais qui a peut-être été un tout petit peu trop en avance, puisqu'à l'époque, des gens comme Kerena n'investissaient pas encore l'espace de l'opéra. Après, il y a eu Gorillaz, il y a eu Abdel Malik, il y a eu pas mal d'expériences depuis qui ont été menées, mais en France, en tout cas, c'était très récent. On était même vraiment au tout début de ça. Et donc, on sent qu'on avait à ce moment-là pas touché tout le public et tout le potentiel que ce spectacle aurait pu toucher. C'est vrai que Rennes, quand je suis arrivé ici, Rennes me semble être la ville avec une culture musicale, une ville jeune, une ville curieuse, où le public allait pouvoir répondre présent à une forme qui, si elle était un peu en avance il y a 10 ans, maintenant, voilà, est quelque chose de plus évident. Et donc, on s'est dit, on va le refaire. Et c'est venu aussi de l'envie de Mathieu Lister à l'Opéra de
Directeur de
Rennes.
l'opéra,
Et puis ensuite, nous, on a des liens vraiment super depuis que je suis arrivé au TNB avec l'Orchestre National de Bretagne. Et donc, assez spontanément, ce projet est devenu un projet porté par le TNB, l'Opéra de Rennes, l'Orchestre National de Bretagne, et avec la présence du chœur Mélim, qui, par ailleurs, est aussi chœur en résidence à l'Opéra de Rennes.
ouais. Alors ça fait effectivement beaucoup de monde, Arthur Nosiciel. Du coup, ça pose la question, comme metteur en scène, évidemment au TNB et puis dans vos mises en scène de théâtre, il y a moins de monde en tous les cas pour décider de ce que va être l'esthétique, de ce que va être la proposition finale. Là, par le fait qu'il y ait énormément d'intervenants différents, comment vous avez envisagé la mise en scène par rapport aux autres propositions, la danse, le temps de la musique, pour que tout le monde s'y retrouve finalement?
Ben en fait, là, on a aussi une équipe qui est très cohérente entre les gens qui sont réunis là et finalement, comme au théâtre, je dirais que tout le monde est réuni autour d'un seul et même projet avec l'envie de raconter cette histoire. Et quelque part, l'histoire de Redwater, c'est aussi l'histoire des gens qui répètent. C'est-à-dire, on est aussi une communauté, on essaye aussi de trouver entre nous le rituel ou le cérémonial qui nous permettra de représenter ce spectacle tous les soirs. Il y a comme ça aussi la création d'une communauté pendant un travail de répétition, et peut-être ça l'est encore plus là parce que la question de la communauté, du partage, d'être ensemble, et aussi celle du spectacle. Donc on se rejoint là-dessus. Et donc l'opéra aussi est écrit de telle façon, et puis c'est ce que j'aime en général, c'est qu'on n'est pas des effets de scène successives avec des gens dans les loges pendant que d'autres sont sur le plateau. Donc c'est aussi un spectacle comme ça où tout le monde est tout le temps présent et où tout le monde participe de l'aventure qui est en train de se construire avec le public dans le temps de la représentation, puisque le public est aussi convié, invité à Redwaters. Donc c'est une aventure comme ça qui est possible aussi parce que là, on est avec des gens très mobilisés, de bonne volonté, sur un territoire, dans une ville qui le permet. Et puis je pense qu'aussi les conditions un peu difficiles dans lesquelles les choses se font en ce moment, à cause du Covid, créent aussi un lien fort entre les gens. En tout cas, on a l'impression que chaque jour, on vole une journée de répétition supplémentaire. Et donc, ça crée aussi cette mobilisation peut-être. Enfin, pour nous, d'un seul coup, c'est vraiment comment faire pour préserver au maximum l'équipe et faire en sorte que ce spectacle voit le jour, quoi. Donc ça crée aussi évidemment une façon d'être ensemble beaucoup plus forte. Et puis les 2 ans qu'on vient de passer ont rappelé, s'il fallait le rappeler, que on a énormément de chance encore de pouvoir faire des spectacles et d'aller en voir, enfin, que c'est vraiment pas un acquis.
Vous avez parlé, Arthur Noziciel, de l'aspect novateur de cette opéra avec Erenan, qui a été l'une des pionnières dans la musique populaire, la chanson à venir à l'opéra. Comment est-ce que vous, en tant que metteur en scène, vous êtes aussi inscrit dans une histoire de l'opéra, tout en proposant avec Red Waters un spectacle qui à la fois s'inscrit dans cette histoire et qui est à la fois très différent? Enfin, qu'avez-vous fait de cette histoire?
Ouais, j'ai pas l'impression de m'inscrire dans une histoire de l'opéra. Les expériences que j'ai eues avec l'opéra et la musique ont toujours été liées au contemporain. Donc, que ce soit Yann Robin ou Zemlinsky, maintenant Kerenan et Bardet Johansson, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ça a toujours été autour d'un répertoire du XXe siècle ou contemporain. Et ça a toujours été des créations aussi. Donc, c'est-à-dire souvent des œuvres qu'on jouait pour la première fois. Donc, en fait, je l'aborde comme j'aborderais plutôt l'histoire du théâtre, hein, mon lien. Là où j'intègre une histoire de l'opéra, c'est plutôt une histoire des contraintes de la façon de monter les opéras, c'est-à-dire comment le temps est divisé, la place du chef, le temps pour le chœur, le moment où arrive l'orchestre, hein, qui sont des choses contraignantes, enfin qui sont en tout cas une façon de faire qui n'est pas celle du théâtre où on peut avoir tout le monde en même temps pendant tout le temps des répétitions. Donc là, on est sur des choses qui sont plus morcelées où le temps est divisé et justement, mon travail, c'est d'essayer d'impliquer tout le monde pour que, quand les gens se retrouvent à certains moments, on soit sûr de raconter le même projet en même temps. Donc, c'est plutôt un travail de transmission, d'un projet, d'une façon de créer du commun, de pas subir, ce qui est ce morcellement de l'opéra pour essayer au contraire de donner à tout ça, l'impression d'une grande fluidité et encore une fois de quelque chose qui est porté par un ensemble. D'artistes. Mais j'ai pas l'impression tellement de m'inscrire dans une histoire de l'opéra. Je vais amener plutôt une façon de faire qui est celle du théâtre, en travaillant avec les chanteurs, par exemple, comme avec des acteurs, en travaillant sur le sens, les intentions, en essayant d'épurer, de trouver quelque chose d'une adresse simple, d'essayer de contraire, de rapprocher ça le plus possible du spectateur, de trouver, non pas un naturel, mais en tout cas une forme d'évidence à la présence des gens sur le plateau. Et je fais plus un travail qu'à voir avec un travail d'acteur au théâtre, qu'un travail de metteur en scène d'opéra avec des chanteurs.
Sauf que ce sont aussi des chanteurs, mais ce que vous faisiez, vous avez cité Yann Robin, ce que vous avez fait il y a quelques mois avec Papillon Noir sur un texte de Yannick Enel. C'est un défi pour vous à chaque fois de mettre en scène des chanteurs parce qu'ils ont aussi leur partition et donc le temps de la musique et puis le corps en mouvement pour ce chant.
Oui, mais c'est comme des. Moi, j'aime assez les contraintes, en fait. C'est-à-dire que c'est comme des règles du jeu, en fait. C'est d'autres règles du jeu. Et donc, au lieu de parler, on chante. Au lieu d'avoir tout le monde tout le temps, on les a par période. Le rythme de la partition impose le rythme du déplacement. Tout ça, c'est des règles du jeu. Donc, moi, ça m'amuse plutôt. C'est-à-dire de me dire comment, en tenant compte de cette règle du jeu, qu'est-ce qui va sortir de ça? Et de voir comment je fais de ces contraintes des choses qui vont plutôt porter le projet. Donc, et puis quelque part, ça facilite quelque chose. Le temps de la musique, le rythme de la musique donne aussi des pistes pour la mise en scène. Donne un. Ça peut. Ensuite, c'est comment on travaille avec ça, comment on va contrarier ça, comment on va trouver la tension et l'énergie dans la lenteur, comment on va trouver quelque chose de simple avec le lyrique, comment on peut travailler, se déjouer à la fois de ces contraintes ou des conventions de l'opéra, des conventions du chant, et essayer de les amener ailleurs. Et d'où l'importance d'avoir pour cela des bons partenaires. Et c'est le cas du chef Nicolas, qui est quelqu'un d'hyper ouvert et de curieux et qui adore cet opéra et qui est vraiment un super partenaire sur ce projet où ces jeunes chanteurs et chanteuses qui sont une autre génération et qui ont envie d'être challengés, qui ont envie de faire des choses différentes, qui ont envie aussi de se démarquer d'une certaine histoire de l'opéra et d'une façon chantée lyrique. Et là, ce qu'on leur demande, c'est pas que c'est difficile à chanter pour des gens qui ont chanté des choses du répertoire beaucoup plus complexes, mais ce qui est difficile pour eux, c'est de le chanter de cette façon. Et c'est là qu'il y a des vrais enjeux pour tout le monde.
Voilà, ça s'appelle Red Waters, ça sera donc à l'Opéra de Rennes du 28 janvier au 4 février dans votre mise en scène, Arthur Noziciel. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes.